et réflexions scientifiques ont animé une œuvre dont le pan mythologique est d'ailleurs trop peu connu. Aujourd'hui, deuxième entretien avec Francesca Piolo, l'enseignement du silence ou rêver en latin.
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est gourmand de la vie ?
Oh non, je suis très ascète, au contraire. Je pense du moins, enfin, je me représente comme ça, vous savez ce qu'on est, on ne sait pas très bien ce qu'on est. Je me souviens d'une conversation avec Michel de Certeau, où je lui ai donné une leçon de christianisme, en disant, mais comment est-ce qu'on peut s'intéresser à la psychanalyse, être prêtre, s'intéresser à la psychanalyse et enseigner la vie comme plaisir, alors que le christianisme, c'est une religion de la souffrance et du salut, donc. Alors, je dis, est-ce que vous ne pourriez pas quand même équilibrer un peu, dans ce sens, parce que moi, c'est une religion de la souffrance que je pratique.
Vous avez fait une expérience dans cette idée-là pour suivre de la résurrection, Grémas.
Ah non, au contraire, ça c'est une expérience très agréable. Là, ça se rapproche du plaisir. Enfin, j'ai éprouvé un plaisir de mourir. Enfin, vous voyez, c'était quelque chose, pas la mort, le mourir est quelque chose d'agréable, à tel point que, j'étais donc la gorge bouchée et tout, je ne pouvais pas parler. Alors j'ai demandé un bout de papier à l'infirmière et je lui ai donné le message « Je veux mourir ». Alors évidemment c'était absolument absurde, vous voyez, puisque elle pouvait pas me faire mourir, mais c'était mon désir profond. On glisse dans la mort comme ça, de manière agréable. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout de l'ordre de la souffrance. Non. Après, si on peut souhaiter une mort, c'est une mort agréable. C'est l'idée de la mort qui nous fait peur, peut-être, et non pas le mourir.
Pour ce qui est de l'ascétisme, vous avez choisi d'être un ascète ou c'est malgré vous ?
Ascète ou esthète ?
Un ascète-esthète, un esthète-ascète.
Oui, les deux. Vous savez, je crois que les choses sont simples. Enfin, c'est une question de génération, peut-être. Je voulais dire par là que j'appartiens à cette génération qui a vécu difficilement. Il s'agissait de traverser la guerre avec les occupations, des libérations, des libérateurs qui vous libèrent pour vous occuper. Et puis, après des années de presque famine, c'est mon thème, finalement, quand je me regarde, c'est vivre difficilement. Je ne dirais pas dangereusement, mais difficilement. Et là, tenir cet enseignement que j'ai reçu comme jeune étudiant, même si tu es couché par terre, enseignait-on, si tu es sous, comme un ivrogne, il faut absolument que tu gardes la tête au moins 5 cm au-dessus du sol. Tenir la tête, au-dessus de l'eau, vous voyez, c'est ça, l'ambition de la vie, vous voyez. Alors, évidemment, cette génération qu'on appelle la consommation ou de l'insignifiance ne peut pas comprendre ça, et ne peut pas comprendre ce qui peut être une valeur pour l'individu, pour soi-même, une sorte de distance et la nécessité de combler cette distance par rapport à quelque chose qui vous dépasse. Alors, mais ça, c'était un trait commun, je ne dis pas de beaucoup de gens, mais de cette génération, de ce qu'on appelle les intellectuels, autre chose. Le dépassement, l'auto-dépassement, mais tout cela, ça a des paroles en l'air maintenant. Donc c'est difficile d'en parler.
C'est-à-dire pour avoir la tête hors de l'eau, il faut savoir serrer les mâchoires souvent.
Ce qui constitue peut-être la chose la moins intéressante de la vie de l'individu. Peut-être où on passe le plus de temps en se serrant les dents, mais finalement dont il ne reste rien de signifiant, de significatif.
Il pourrait rester une certaine dureté, une certaine manière de s'être endurci ou d'être dur, oui, c'est-à-dire peu accessible aux sentiments.
Je ne sais pas. Après, là, il y a... Peut-être que je suis exigeant pour moi-même, d'où une certaine écriture difficile à comprendre, à saisir, parce que je cherche toujours à mettre le plus de choses dans une phrase, enfin, dans mon jargon, enfin, j'entends. Mais aussi, il y a aussi une sorte d'exigence par rapport aux autres. Enfin, j'exige des choses des autres. Alors, ce qu'on appelle l'esprit de chapelle ou autre chose, vous voyez, c'est-à-dire les gens que j'aime et qui restent autour de moi, enfin, correspondent à certaines exigences, vous voyez. Après, j'ai pensé toujours que la recherche, c'est une exigence morale, en même temps. Évidemment, on réussit plus ou moins bien, enfin, là les gens qui quittent le train, enfin, et d'autres qui montent, après, le tout, c'est d'avoir l'ambition pour les autres, après, et pour soi-même.
C'est pas innocent, quand même, Grémas, que vous utilisiez des images comme ça, des métaphores qui ont trait au voyage, pour vous.
Vous savez, dans la carrière universitaire, il y a une partie de la vie, enfin, où on passe à assister aux colloques, enfin, où... à ce qu'on appelle le jet set society. Alors ensuite, on commence à aller dans les autres universités pour faire une conférence seulement. Ensuite, on va ouvrir les congrès. Et c'est la carrière, disons, du point de vue sémiotique, vous voyez. Peu importe le contenu, enfin, chacun fait ce parcours. Alors... est-ce que ça rime à quelque chose ou non? À quoi que j'ai passé, plus ou moins, déjà l'époque des voyages. C'est peut-être l'époque des interviews. C'est l'anti-rigueur, en quelque sorte, et l'ouverture.
Non, je parlais du voyage, Grémas, parce que quand même, vous êtes né dans un pays qu'on connaît, enfin, dont on parle actuellement, quand même. Vous êtes né en Lituanie.
Ah non.
Non.
Oh. Je suis né en Russie.
En Russie.
C'est-à-dire, je suis né déjà des parents réfugiés. Alors, donc, j'étais destiné à être voyageur réfugié, enfin, dans ma vie. Je suis né de l'autre côté de Moscou, même, enfin, dans la ville qui s'est illustrée par les samovars et par Tolstoï. Enfin, et ensuite, à l'âge d'un an, enfin, j'ai été ramené à Lituanie, enfin... après la révolution, la grande révolution russe. C'est vrai que ce premier voyage n'a pas été coûteux pour moi. Alors j'ai commencé ma vie en Lituanie, en effet.
Les histoires qu'on vous a racontées, c'était des histoires de révolution?
Oui, après c'est la révolution de février que mon père aimait raconter... et qui m'a rappelé étrangement le mai 68 à Paris. Enfin, c'est-à-dire vraiment un sentiment de libération, enfin, une sorte de détente, enfin, de joie de vivre collectif. Enfin, personnellement, on est plus ou moins heureux, mais enfin, on sent que tout est possible, il y a une ouverture sur le monde. Alors, c'était le février 17 et mai 68, enfin... et c'est comme ça, ça me donne l'idée de ce que pourrait être cette libération de l'humanité. Mais malheureusement, ça ne dure qu'un moment. Enfin, ensuite, alors, la deuxième révolution, qui n'était pas une révolution, qui était un coup d'État bolchevique, ça, c'était autre chose. Après, déjà, après, bien organisé, orchestré, enfin, c'était la fin de la révolution. Alors, donc... j'ai été élevé dans la Lituanie qu'on appelle bourgeoise. C'est-à-dire, c'est une Lituanie bourgeoise, mais il n'y avait pas de bourgeois, il n'y avait que des paysans. Hein. Mais après, ça, selon les étiquettes de l'époque, c'était bourgeois.
Et alors, votre père, Grémas, c'est très important pour vous? C'est lui qui vous a inculqué ces valeurs, par exemple, dont vous parlez, ce sens du dépassement?
Peut-être, mais c'est... un enseignement du silence. Après, j'ai eu un père silencieux. Après, j'ai appris à faire des promenades dans la forêt à deux. Après, mais c'est pendant des heures, mais sans prononcer un mot, vous voyez. Et je crois que ça, c'est un grand enseignement. Après. Donc, de pouvoir être à deux et sans avoir rien à se dire, enfin, et du même coup à communiquer. Ça, c'est un effet. Ensuite, c'est, évidemment, c'est l'image de sa mort qui me hante continuellement. Ça, il a été comme bourgeois déporté dans un camp près du pôle Nord et il n'a tenu que 3 mois enfin, en vie. Enfin, moins 40 de gel. Et alors, ce que ma sœur m'a raconté ensuite, par ceux qui ont survécu, enfin, c'est que ses amis lui ont enlevé le dernier pantalon pour l'enterrer enfin, dans la terre gelée, hein, absolument. Et c'est ça qui est la dernière image de mon père. Alors là, tout ça, c'est... Oh, ben, c'est des souvenirs dont il est difficile de parler.
Bien sûr. Oh. Et la Lituanie, les paysages lituaniens, Grémas, il vous reste quelque chose?
Oui, ça, j'avais même l'intention de devenir riche et d'avoir une maison de campagne sur les bords du Niémen. C'est un pays un peu comparable aux Perches, hein, avec des forêts. Et des collines boisées, enfin, et des fleuves qui tournent, enfin, font des tours et des détours. C'est très sympathique, enfin.
Mais votre manière de revenir à la Lituanie, c'est de travailler sur les mythes lituaniens.
Ah, mais ça remonte à mon enfance, enfin, disons. C'est parce que mon père, enfin, il était professeur du lycée, enfin, on a la... l'enseignement dans le sang. Il avait cette idée, pour laquelle je suis reconnaissant, d'envoyer chaque été, de m'envoyer à la campagne, pour vivre la vie d'un petit paysan, avec tous les travaux que ça impliquait, de conduire les charrettes, amener les chevaux, pour la nuit dans la forêt. Après, faire les travaux de labour, après, on a commencé par garder les cochons, ensuite on a monté en grade pour les vaches et tout. Alors, j'ai vécu donc cette vie qui est la vie de campagne, pas procuration un peu indirectement, mais avec tout ce qu'il y avait encore de mythique, des fées, des diables, des feux follets, tout cela est vivant pour moi. Hein. Alors, donc, quand j'ai utilisé ensuite les matériaux du folklore, c'est devenu, pour moi, une sorte, une mythologie, vous voyez, une sorte de religiosité de la vie communautaire, une sorte de croyance commune, c'est les brumes du matin, vous voyez. Alors, à partir de cela, il a fallu que je rencontre des gens comme Dumézil pour pouvoir m'intéresser, scientifiquement, si on peut dire, à ce phénomène et chercher, à réaliser ce que j'avais promis à Benveniste et à Dumézil, c'est-à-dire de décrire la mythologie lituanienne. Parce que comme c'est un peuple indo-européen, alors la mythologie est comparable à la mythologie grecque, romaine, irlandaise, pour constituer cette mythologie comparée des peuples indo-européens, vous voyez. Alors c'est ma petite pierre, ma petite contribution de ce... Mais à cela, je suis donc reconnaissant à mon père, vous voyez, à mon enfance, pratiquement, que... J'étais le seul témoin possible pour pouvoir faire ça.
Des dieux et des hommes, c'est une sorte d'hommage rendu au père et puis via Dumézil.
Absolument. Oui. À Dumézil qui m'a servi de modèle d'un honnête homme, d'un savant à la fois extrêmement rigoureux et extrêmement bienveillant, réservé, modeste. Enfin, c'est comme ça que j'aurais aimé être. On n'arrive pas à être ce qu'on veut, mais on se crée des modèles dans la vie. Alors, Dumézil était quelqu'un de cela. Alors, il a passé, je crois, 2 mois à Ankara, quand j'étais professeur à Ankara. Enfin, alors, nous voyons peut-être pratiquement tous les jours. Alors là, c'est l'esprit de Dumézil, enfin, qui m'a fait, enfin, donne une autre image de Gréma, si vous voulez, parce que j'ai toujours voulu faire des choses simples, et j'ai fait des choses compliquées, enfin, toujours en voulant faire des choses simples. Alors, la mythologie, c'est peut-être un petit essai de m'échapper de moi-même et de raconter des histoires. Enfin.
Quand est-ce que vous avez quitté la Lituanie pour d'autres pays, et quel pays, Grémas?
Ah, ça, c'est grâce à Hitler. Enfin, la Lituanie était plutôt culturellement sous l'influence allemande. Non, la première langue d'enseignement, la première langue étrangère, c'était l'allemand. Et puis Hitler est arrivé au pouvoir, il a voulu afin qu'on lui obéisse. Alors, la petite Lituanie n'a pas voulu, alors Hitler a proclamé le blocus et n'acceptait plus les cochons lituaniens, ni les oies lituaniennes, et alors il fallait faire quelque chose, et alors on s'est tourné donc vers la France. Et du même coup, les gymnases allemands ont été transformés en lycées de type français. Et alors seulement, il n'y avait pas assez de professeurs pour enseigner le français. Alors on a expédié en un seul automne, enfin 400 types qu'on a ramassés dans la rue, plus ou moins, parce que j'étais étudiant en droit, pour aller apprendre le français. Comme ça, je me suis retrouvé à Grenoble, vous voyez, grâce à Hitler. Et la France, c'était quelque chose comme la culture en général, vous voyez. La culture occidentale, européenne, c'était ça, une référence constante. Vous voyez, la façon d'être humain, enfin, vous voyez. Donc, il n'y avait pas de contradiction pour nous d'aimer Rilke et de rêver la France, vous voyez.
C'est cette culture française qui vous a permis de, finalement, de ne pas vous vivre trop comme un exilé?
Oh, pas...
Vous sentez vraiment comme un exilé? Vous êtes vécu comme...
Non, mais ce n'est pas parce que je suis en France, parce que je suis un peu métèque. Non, au contraire, pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai été même favorisé du fait d'être métèque, enfin, parce que le Nouvel Observateur avait publié un numéro spécial à l'époque, vous voyez. C'est Metec qui apporte quelque chose à la France. Alors, il y avait à côté du Montant, il y avait mon nom aussi. Alors, quand les infirmières ont lu ça, j'étais choyé, aimé, vous voyez. Ça, être Metec en France, maintenant, c'est un privilège. Donc, de ce point de vue, j'ai jamais été gêné, non? La difficulté, c'est la difficulté qui est la solitude elle-même, en fait, c'est-à-dire le... Je crois que c'est le prix qu'on doit payer, enfin, c'est le prix de la sagesse, enfin, en quelque sorte, non?
Il y a aussi le problème de la langue, le passage d'une langue à l'autre.
La langue, oui, c'est-à-dire que...
L'italien, l'allemand, et puis passer au français?
Ah non, c'est pas du tout, je suis schizophrène, parfait, enfin, donc, je vis dans deux langues, mais qui ne se rejoignent pas, enfin, vous voyez, il y a une partie de ma vie se passe en français et une autre partie en lituanien. Mais ce sont deux archipels qui ne se touchent pas.
Enfin, vous rêvez en français ou en lituanien, Grémas?
En latin.
Non.
Non, c'est ce que j'ai été accusé autrefois par ma femme de m'a réveillé en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rêves en latin. Alors, comme autrefois, vous savez, le latin, on apprenait chaque jour, enfin, d'hiver, enfin, par cœur. Enfin, alors donc, ça me fait un bagage de vers latin oublié, mais qui revient dans le sommeil, enfin, tout Virgile, enfin, et Horace et tout, enfin, vous voyez. Donc, je ne sais pas, je ne rêve pas, en général. Je n'arrive pas à rêver. Je suppose que je suis tellement bloqué pour l'éternité, incurable psychanalytiquement. Hein.
Vous vous étonnez après du fait que les analystes viennent vous trouver pour que vous parliez du silence?
Oui, ça m'étonne un peu. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de moyens, d'approche, de méthode pour comprendre le silence, parce qu'ils pratiquent le silence, surtout les lacaniens, n'est-ce pas? Mais pour faire parler les autres. Là, alors, ils se posent la question, comment interpréter le silence des gens qui doivent parler? Oui, c'est-à-dire, ce qui est du non-dit, finalement, c'est ce qu'ils cherchent, ou prétendent chercher.
Alors vous avez des clés sur le non-dit?
Je ferai du sentiment. Hein, vous savez, le dernier non-dit, je crois que c'est, assez bizarrement, c'est les choses les plus simples. Hein, ouais. Quand on reste 3 ans sur un petit texte, hein, quand on cherche à voir qu'est-ce qu'il y a, le non-dit dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a en profondeur, on arrive à trouver les choses les plus simples, les plus banales. C'est-à-dire que la banalité et la profondeur, c'est la même chose. Hein. Je préfère la banalité non dite à la banalité dite, c'est tout ça. Hein.
Dans votre mythologie personnelle, Grémas, il y a deux paysages dont on n'a pas parlé, c'est Alexandrie et Ankara.
Et après la guerre, j'avais soutenu ma thèse doctorale à la Sorbonne et j'attendais un poste quelque part. On m'avait promis un poste à Yale pour être un professeur d'ancien français. Parce que ça, c'est mon dada, ma petite attraction, c'est l'ancien français et la civilisation médiévale, n'est-ce pas? Alors, le poste m'attendait seulement. Après des années, disons, de presque famine, ma femme était tombée malade, après une anémie pernicieuse, après que je ne pouvais plus attendre les 6 mois qu'il fallait. Alors, j'ai accepté le premier poste, mal payé, après, à Alexandrie. Et, on a fait les bagages, et on est parti comme ça, en attendant mieux.
C'était en 50.
En 50, oui. Alors, donc... Et puis, on s'est éternisé.
Combien de temps?
8 ans, tout plein. Parce que, vous savez, j'avais une préparation philologique. J'ai pensé que, comme il y a une bibliothèque à Alexandrie, après, on va pouvoir travailler. Après, je vais faire des... renverser des montagnes. Mais, arrivé une fois, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livres. Alors, donc, c'est là, finalement, mes années d'apprentissage, en quelque sorte, après la thèse, vous voyez, que j'ai commencé à apprendre certaines choses.
Quoi, par exemple, Grémas?
À réfléchir sur la façon dont il faut réfléchir. Alors, c'est-à-dire, comme il n'y avait pas de livres, alors, on avait constitué une sorte de club autour d'une bouteille de whisky, avec médecin, docteur Salama, ami de Mendes France et d'Edgar Faure, enfin, qui était là, qui disait, on se réunit, on cause, enfin. Alors, il y avait des linguistes, des sociologues, des philosophes, enfin, un peu, personne n'avait de livre. Alors, donc, on cherchait quelque chose en commun, alors qu'on appelait du mot épistémologie. Maintenant, c'est très à la mode, mais on se moquait de nous. Comment est-ce qu'on peut parler d'épistémologie? Qu'est-ce que c'est que cet animal, hein? Alors, donc, c'est la méthode de pensée, finalement, qui était en jeu pendant 6 bonnes années. Hein? On s'est gargarisé de mots, si vous voulez, mais Alexandrie était quand même une sorte de bord de plaine, comme on disait. Hein? Mais finalement, c'est... A posteriori, ça paraît comme des années heureuses.
Vous aviez fondé une revue avec Barthes.
On a essayé de faire plusieurs revues seulement. Enfin, vous savez, on était inconnus, personne ne voulait de nous et on ne savait pas très bien ce qu'on voulait faire encore. C'était avant le structuralisme. Ensuite, la revue qu'on a fondée, c'est la revue Langage au pluriel. Mais ça a été accaparé ensuite par les... les Chomskiens, etc., ça a perdu son sens.
Vous vous souvenez de la réflexion de Barthes à propos de l'argent? C'était lié à la revue?
C'était lié à la revue, mais aussi, disons, à la certaine philosophie de la vie de Barthes, qui a eu une vie très pauvre, une vie difficile, comme moi. C'est ce qui nous a relié, peut-être. C'est que les sous, ça comptait. L'idée est que les savants, les scientifiques, les intellectuels doivent travailler gratis, non? Parce que les idées sont nobles, non? Alors, lui, lors de la première réunion du comité, on était cinq, il a dit « les relations d'argent sont les seules relations saines ». Ça, on sait à quoi s'en tenir, tandis que quand on travaille sur le sentiment, sur la fidélité, sur le dévouement, tout ça, c'est très bien, mais on sait pourvu que ça dure. Mais ça, c'est mon côté lituanien, vous voyez. De ce côté-ci, je suis un grand sentimental. Par exemple, quand on parle de l'amitié, en France, on distribue les chers amis à tout le monde, non? Tandis que dans la conception lituanienne, c'est l'amitié à la manière dont elle était pratiquée en France au XVIe siècle.
Et Ankara?
C'est quelque chose de grand, parce que Alexandrie, c'était une ville française, vous voyez, c'était une ville de la dimension de Bordeaux, 300 000 habitants parlant français, et puis autour, il y avait ces gens-là, c'est-à-dire les indigènes, dans la banlieue. Et on avait un certain mépris, on n'avait pas de mépris, puisque j'ai été, pendant l'expédition du canal de Suez, j'ai été sollicité par Nasser de rester au lieu d'être expulsé, comme non-impérialiste. Alors, ouais, donc, j'étais pas tellement colonialiste, mais c'était une autre atmosphère désagréable. Alors, tandis que la Turquie, c'était, à condition de ne pas parler d'arménien, on pouvait vivre très bien. Il y avait des professeurs à l'université qui travaillaient, vous savez. Qui faisaient leur boulot, qui écrivaient même des livres, vous savez, peut-être pas tous, mais disons 30%. Alors qu'en Égypte, vous voyez, mes collègues égyptiens n'ont jamais pu comprendre pourquoi est-ce que je travaillais, puisque j'étais déjà docteur. Alors la Turquie, c'était bien. J'ai appris la logique symbolique en Turquie. Vous voyez. Il y avait un professeur, un collègue kurde. Très bien. Il pesait 120 kilos. Il avait été assistant de Reichenbach. Réfugié allemand qui avait enseigné à l'université d'Istanbul. L'université d'Istanbul, pendant la guerre, c'était quelque chose d'énorme. Tous les Allemands, les meilleurs, étaient accueillis par Atatürk. Et on leur a dit, mais faites ce que vous voulez. J'ai gardé des relations jusqu'à présent avec des gens qui sont des personnes de qualité. Les auteurs préférés parmi les amis turcs sont des gens comme Pascal, Bernanos. J'ai été étonné de voir dans un arrière-fond musulman de trouver des affinités avec un certain type, un certain penchant de culture française.
C'était mémorable. Algirdas Julien Grémas s'entretenait avec Francesca Pioloux.